Alors, je prends le relais. Effectivement, le contexte de Linky, vous voyez que c'est une vieille histoire. Ça s'inscrit dans une longue histoire. Et dans ces années 2010, fin des années 2000, on en est à un point où, effectivement, la question de l'énergie, de l'électricité, devient centrale à tout point de vue. Point de vue économique, point de vue écologique, point de vue social. On a des chiffres qui sont très révélateurs. L'Agence internationale de l'énergie nous dit que depuis 1973, c'est-à-dire après les Trente Glorieuses, la consommation d'électricité dans le monde a bondi de 100%, c'est-à-dire qu'elle a été multipliée par deux. Et que si on continue comme ça, effectivement, on va avoir des gros problèmes. Donc ça, c'est le contexte, disons, au niveau de l'énergie, qui se pose dans les années 2000-2010. Seulement, on nous dit ça d'un côté, puis d'un autre côté, c'est l'ère du numérique qui démarre. Donc les smartphones, les tablettes, les ordinateurs partout. Maintenant, il faut des prises électriques dans tous les coins pour pouvoir rebrancher tout ça. J'ai vu que ces objets-là, smartphones et tablettes, entre 2010 et 2020, en 10 ans, là, sur les estimations, c'est une consommation multipliée par 186 d'électricité. Donc on a un contexte où à la fois on a déjà beaucoup trop consommé, mais en fait on va continuer à beaucoup consommer, d'autant plus qu'arrive le grand projet, surtout très soutenu en France, et qui explique en partie Linky, de mettre sur les routes des voitures électriques, de remplacer toutes nos voitures par des voitures électriques. L'association qui défend ce projet a chiffré à 800 000 les espoirs de voitures électriques sur les routes en France en 2020, c'est-à-dire dans 2 ans. Et donc, la voiture électrique, ça demande de l'électricité, encore plus. Et ça en demande de façon énorme et concentrée. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde rentre du boulot à la même heure et a besoin de recharger sa voiture à la même heure. Et quand on fait une recharge de voiture électrique en accéléré, c'est-à-dire pour qu'elle soit rechargée rapidement, l'appel de consommation électrique sur le réseau équivaut à celui d'un immeuble entier pour une voiture. Voilà le contexte de la demande d'électricité qui se profile et auquel doit faire face Enedis, évidemment. Donc, les ingénieurs qui voient ça, ils se disent il faut qu'on trouve un système pour qu'on pilote de façon centralisée la distribution d'électricité. Il y a des endroits où on va en donner plus, des endroits où on va en donner moins. À telles heures, on va en donner plus, à telles heures, on va en donner moins. Il faut qu'on ait les outils qui nous permettent d'avoir cette espèce de tour de contrôle, comme dans un aéroport, pour savoir en temps réel la demande et pouvoir ajuster en temps réel donc la livraison d'électricité. Et c'est pour ça que Linky a été conçu, notamment avec l'idée de pouvoir faire ce qu'on appelle des effacements, c'est-à-dire la possibilité, parce que ce compteur, vous savez qu'à la fois, il relève votre consommation en temps réel, mais il est capable aussi de recevoir des ordres et d'agir à distance, donc depuis des ordres transmis à distance, d'agir sur votre installation électrique. Les effacements, c'est ça. C'est l'idée que votre compteur reçoive l'ordre, par exemple, de baisser la température du logement d'un degré pendant une heure. Parce qu'on a besoin de récupérer de l'électricité pour la mettre ailleurs, par exemple, pour recharger des voitures. Donc, le concept Linky, si vous voulez, c'est à la fois un compteur chez vous, mais c'est surtout une infrastructure globale, un système centralisé, où on met à chaque point de livraison d'électricité, donc à chaque foyer, ce compteur-capteur, il faut plutôt parler de capteur, et puis en centrale, des systèmes qui récoltent les données, qui les analysent et qui agissent en fonction de ça. C'est vraiment tout un système comme ça. Le deuxième élément de contexte de l'arrivée de Linky, c'est l'ouverture des marchés d'électricité à la concurrence. Vous avez tous connu le monopole d'EDF pendant longtemps, on en a parlé. En 2008, l'Europe a introduit l'idée que l'électricité devait devenir un produit soumis à concurrence. Donc on a ouvert le marché avec des nouveaux fournisseurs d'électricité. Et une bourse européenne d'électricité qui a été ouverte, qui s'appelle European Power Exchange. Vous pouvez regarder sur Internet, ils ont un site. Et puis vous pouvez vous amuser à suivre le cours de l'électricité qui varie selon l'offre et la demande, comme sur n'importe quelle bourse. Comme le prix du cacao, ou le prix de l'uranium, ou le prix de l'étain, en fonction donc des demandes. Et on a donc besoin d'avoir des informations qui permettent, comme on dit sur ces marchés, d'apparier les courbes de l'offre et de la demande chaque jour. Autrement dit, le système Linky, l'idée d'équiper les consommateurs d'un système qui permette de connaître leurs demandes en temps réel, ou au moins jour par jour, ça permet d'ajuster l'offre et la demande et le prix d'électricité sur cette bourse-là. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que sur cette bourse d'électricité, il y a évidemment des gens qui viennent acheter, donc ça peut être EDF qui en achète ou qui en vend, par exemple, donc des producteurs, des distributeurs d'électricité, mais vous avez aussi des banques. Voilà, la Barclays Bank, BNP Paribas, viennent sur cette bourse, alors que ce n'est pas vraiment leur métier. Bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils spéculent sur l'électricité. Ils achètent, ils vendent. Voilà. Donc c'est dans ce contexte-là aussi qu'arrive Linky. Ayez toujours tout ça en tête quand vous entendez la publicité d'Enedis qui vous dit que c'est bien sûr pour vous, en tant que consommateur, qu'on a fait toutes ces choses-là. L'idée aussi, c'est d'arriver à terme à avoir une tarification de l'électricité qui soit évaluée de façon individuelle, quasiment, en fonction de votre profil de consommateur, en fonction de l'heure, en fonction du moment du mois, etc. De sorte que vous ne serez plus capable de savoir combien coûte un kilowatt. De la même façon qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de dire combien coûte un aller-retour en train pour Paris, puisque ça change tout le temps. Et que ça, voilà. Donc l'idée, c'est d'arriver à des tarifications comme ça qui fluctuent. Ça va devenir compliqué de se repérer là-dedans, évidemment. Alors, on nous dit que Linky est imposé par une loi française qui elle-même traduit en droit français une directive européenne. La loi, elle a été votée en 2014-2015, la loi de transition énergétique. Et donc, qu'il arrive dans le cadre de cette loi pour nous aider à devenir de bons éco-citoyens et à réduire notre consommation d'électricité. Alors, en fait, c'est pas tout à fait ça la vraie histoire. Ça, c'est la jolie histoire qu'on nous raconte. La vraie histoire, c'est que le projet Linky, il date de 2006. C'est un projet industriel qui a été monté par Enedis avec des partenaires industriels parce qu'on savait faire, et notamment chez nous à Grenoble, on est largement responsable et on vous présente nos excuses, on sait faire maintenant des systèmes d'électronique si petits et si perfectionnés qu'on peut en mettre partout. Et c'est à ça notamment que servent les nanotechnologies, c'est à faire des supports numériques très, très petits. Et donc, on vous parlait tout à l'heure de ces projets qu'on voyait nous il y a 10 ans. Donc c'est IBM qui au départ parlait d'un projet de planète intelligente qui ensuite maintenant se décline en ville intelligente, donc la fameuse Smart City, en objet intelligent, et tout est intelligent. Alors il faut entendre intelligent au sens anglais de intelligence qui signifie renseignement. C'est-à-dire que ce sont des objets et des structures qui sont capables de collecter des données. Donc c'est des mouchards en fait, pour parler en bon français. Et donc la nanoélectronique, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de mettre de l'informatique partout. Donc soit sous forme de puces communicantes, par exemple, comme celles que vous avez dans les passes d'autoroute ou maintenant les passes de transport public où on n'a plus besoin de valider directement. À distance, en tout cas, on le fait. Et puis on a développé l'Internet des objets, c'est-à-dire la capacité qu'on a à centraliser, à récupérer toutes les données qui sont collectées sur le terrain par tous ces capteurs, quelle que soit la forme des capteurs, Linky étant un de ces capteurs. Mais vous avez maintenant évidemment des systèmes d'informatique ambiante, comme on dit, partout, puisqu'on puce les poubelles pour le ramassage, maintenant qu'on équipe de capteurs à peu près toutes les structures de la ville, les systèmes de transport, les systèmes des réseaux évidemment, donc d'électricité mais aussi d'eau, de gaz. Vous allez avoir maintenant donc des données qui seront collectées tout le temps sur votre mode de vie, de façon à avoir une administration virtuelle centralisée. C'est ça l'idée en fait de la planète intelligente et de la ville intelligente. C'est l'idée de dire, on va rationaliser votre vie en ville au prétexte d'économiser les ressources, toujours, on est d'accord, on est dans cette idée qu'il faut faire un effort pour rationaliser, mais ce qui est surtout mis en œuvre, c'est la possibilité d'avoir un pilotage, comme je disais tout à l'heure, un pilotage centralisé de votre vie, parce qu'on peut suivre à peu près le fonctionnement des flux et des stocks, parce que c'est comme ça qu'ils parlent de nous, nous sommes des flux et des stocks dans la ville. Donc ça vaut par exemple pour les embouteillages où on va capter toutes vos données issues des téléphones portables pour avoir l'état de la mobilité sur la route, mais ça vaut aussi pour l'usage des transports en commun, ça vaut pour l'hôpital, ça vaut pour tous les services finalement où on a comme ça cette vision à distance de ce qui se passe dans la ville. Et donc on a ça qui devient possible d'un point de vue technologique. Nos industriels disent nous on sait mettre de l'informatique partout. Et puis à partir de 2010, Enedis commence à travailler avec ces industriels-là et à mettre au point des démonstrateurs. Ils font des tests, ils font déjà des premiers tests de compteurs, capteurs comme ça, intelligents. En 2012, c'est intéressant, Legrand, le fabricant de matériel électrique, domotique, signe un partenariat avec Enedis pour préparer des solutions Linky Ready, donc qui seront compatibles avec Linky, Linky étant quelque chose qui n'est même pas encore décidé par la loi. On est en 2012, ils ont déjà signé des accords de partenariat, la loi sera votée en 2014, mise en œuvre en 2015. D'accord ? Et puis dès 2014, ERDF à l'époque annonçait sa volonté d'exporter son système Linky à l'étranger, la France étant censée de servir de vitrine pour son savoir-faire, toujours avant le vote de la loi. Donc vous voyez que, en fait, quand on vous dit, eh ben, un jour les députés se sont réveillés, ils se sont rendus compte que la planète allait mal et donc ils ont voté une loi pour qu'on devienne tous des écolo-citoyens, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est d'abord un projet industriel, évidemment. Et ça se passe d'autant moins comme ça que quand on regarde, au fond, les enjeux réels de Linky, on n'est pas dans la transition écologique, on n'est pas dans la transition énergétique, on est dans la transition numérique, avant toute chose. Et la transition numérique dont je vous parlais tout à l'heure avec les voitures électriques, avec les objets connectés partout, c'est d'abord une transition vers toujours plus de consommation d'électricité. Toutes ces données qui sont captées, qui sont collectées et qui sont centralisées par les objets connectés, notamment par Linky, elles vont dans les data centers. Vous savez, ces grands hangars remplis de matériel informatique qui moulinent toutes ces données-là. Et data centers, c'est aujourd'hui 10% de la consommation électrique française. Et c'est ce qui va de plus en plus consommer. Ça consomme tellement, d'ailleurs, qu'on est obligé de chercher des endroits frais ou froids pour les placer parce que ça produit de la chaleur tellement ça turbine. Et donc on nous dit qu'en 2020, les data centers aux États-Unis rejetteront plus de CO2 que les avions. Donc si on veut faire un geste pour la planète, comme on dit, il ne faut peut-être pas commencer par nous mettre des Linky qui vont alimenter toujours plus ces data centers. Et les projections sur les objets connectés sont folles. Les cabinets qui regardent ça prédisent 20 à 30 milliards d'objets connectés dans le monde en 2020, c'est-à-dire après-demain. Soit 50 par foyer français. 50 objets connectés par foyer français. Mais qu'est-ce que c'est que ces objets connectés ? Alors ok, on connaît les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, ils sont connectés. Mais en fait, tout devient connecté. C'est-à-dire que les radiateurs, les thermostats, les chauffe-eau, eh ben, maintenant ça va devenir compliqué d'en trouver qui ne soient pas connectés. Et ça tombe bien parce que le but, c'est qu'ils discutent avec Linky. Vous voyez, comme quand je vous disais tout à l'heure qu'un des objets de Linky, c'est qu'ils puissent intervenir à distance sur votre maison. C'est par le biais de ces objets connectés-là. Mais c'est aussi... Moi, je suis allée au salon de l'Internet des objets l'année dernière à Grenoble. J'ai découvert qu'on faisait des brosses à dents connectées, des balances connectées, enfin, tout est connecté. Et donc, ces objets dits intelligents sont censés nous guider dans nos vies, en fait, nous remplacer dans la prise de décision de nos vies, c'est-à-dire qu'on n'est même plus capable de se brosser les dents tout seul. Il nous faut un smartphone pour nous dire qu'on l'a bien fait. Et tout est à l'avenant, c'est-à-dire c'est l'idée que les machines vont savoir mieux que nous comment organiser notre vie individuelle et notre vie sociale. Ce qui arrive d'ailleurs derrière, c'est la smart home. Maintenant qu'on a fait la smart city, on va faire la smart home, c'est-à-dire la maison intelligente qui, en lien avec Linky, va aller vers toujours plus de domotique et toujours plus d'automatisation. Alors, c'est là qu'est le deuxième enjeu de Linky. C'est un enjeu économique, évidemment. C'est l'enjeu du big data. Aujourd'hui, le minerai, ce qu'on nous explique, c'est que dans la nouvelle économie, cette économie numérique où tout est connecté, le nouveau minerai, ce sont nos données. Ce sont les données qui valent de l'or. Et d'ailleurs, les gens qui sont capables de les récupérer, de les traiter, de leur donner de la valeur, c'est-à-dire de leur faire dire des choses à ces données, gagnent beaucoup d'argent et proposent leurs services à tous les gens qui ont envie de vous vendre des choses, en fait. Alors, je regardais tout à l'heure, tout ça, ça intervient dans le contexte du développement exponentiel de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le fait que de plus en plus, les machines, en se nourrissant de toutes les données et de toutes ces masses d'informations et de données, sont capables donc de prendre des décisions à notre place. Alors on a maintenant des modèles prédictifs. À quoi ça sert de récupérer toutes ces données ? C'est d'établir des modèles prédictifs, c'est-à-dire qu'on peut, en analysant la façon de vivre, de fonctionner de tel quartier, de telle rue, de tel village, de telle ville, en déduire des habitudes et en faire du profilage assez précis, d'ailleurs. Et ils ont des expressions charmantes, hein, les gens qui font ça, les gens qui font du data marketing. Ils parlent de modélisation du comportement, c'est-à-dire que votre comportement va se traduire par tant de pourcentage, je ne sais pas moi, vous rentrez chez vous à telle heure, vous partez à telle heure, vous allez au supermarché tant de fois par semaine, vous allez à la bibliothèque tant de fois par semaine, enfin toutes vos habitudes sont modélisées comme ça. Et ça permet, alors je vous les cite parce que c'est quand même poétique, de déclencher un événement souhaité, c'est-à-dire en gros de vous faire acheter quelque chose. C'est ça que ça veut dire. Et donc c'est les gens, vous savez, qui vous téléphonent ou qui vous envoient des mails ou qui vous envoient maintenant des annonces directement sur votre smartphone pour vous dire, eh bien, vous passez pas loin de tel endroit où nous savons que vous aimez venir, eh bien, venez, il y a une promotion, par exemple. Ou bien... des gens qui vont vendre des couches culottes vont demander aux gens qui font du data marketing de leur donner des fichiers et ben, par exemple de femmes qui en sont à leur 8e mois de grossesse parce que c'est là que c'est le plus évident de vendre ce genre de produit. Donc on arrive maintenant à avoir des profils de consommateurs très précis et Enedis se vante de devenir aujourd'hui un acteur majeur du big data. Parce que, dit son président Philippe Monloubou, il gérera bientôt 35 millions de capteurs. Donc, c'est pour ça que nous ne parlons plus de compteurs, mais nous parlons de capteurs. Ce n'est pas un compteur qu'on vient installer chez vous, c'est bien un capteur. Et Enedis est en train de changer de métier. C'est-à-dire que là où cette entreprise publique avant avait pour mission d'amener l'électricité jusqu'à chez vous, ça maintenant, ça va devenir un prétexte. Ok, ils vont continuer à le faire, bien sûr. Mais leur vrai métier, ça va être de valoriser les données comportementales, comme on dit toujours dans le vocabulaire poétique du data marketing. Et donc, Enedis a monté une équipe en interne qui s'appelle la Fabrique Numérique, où il y a des gens qui travaillent, qui sont, on appelle ça des data scientists, et qui travaillent avec des startups pour, alors je les cite, hein, trouver de nouvelles exploitations des données, et notamment, surtout, ce qu'ils espèrent, c'est tirer... des nouvelles opportunités, comme ils disent, du croisement des données. C'est-à-dire que Enedis va avoir les données sur la consommation d'électricité, mais si on croise ça avec d'autres données disponibles, ah, ben on commence à avoir des profils intéressants sur votre mode de vie, vos habitudes, vos préférences, et donc ce qu'on pourrait vous vendre. Donc juste à titre indicatif, hein, la société prestataire d'Enedis qui est chargée de récupérer ces données, qui s'appelle Teradata, elle a calculé qu'elle allait devoir gérer 2000 milliards de relevés par an. Donc c'est beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de données. Voilà, donc tout ça, c'est le véritable enjeu de Linky, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il faut bien distinguer entre le discours qui vous est tenu, à savoir, c'est pour vous aider à maîtriser votre consommation d'électricité, et c'est pour nous aider à aller vers un modèle vertueux, où on pourrait intégrer plus d'énergie renouvelable, bref, que des choses... qu'on ne peut qu'approuver. Quand on regarde vraiment, premièrement, ça va, au bout du compte, augmenter la consommation d'électricité, parce que la récolte de ces données, ça fait tourner les data centers, et que si, peut-être à l'échelle individuelle, pour quelques-uns d'entre nous, on va apprendre grâce à Linky à éteindre la lumière quand on sort des toilettes, éventuellement, bon. En tout cas, au final, si on tire un trait global et qu'on fait la somme, c'est un système qui est toujours plus glouton en électricité. Donc ça, c'est première chose, hein. c'est pas la transition écologique, c'est la transition numérique, c'est différent. Et deuxièmement, bah, ce qui est mis dans la balance, en plus de détruire la planète, c'est un tout petit détail, hein. C'est l'idée qu'on avait jusqu'ici une vie privée, qui pouvait être préservée au moins à la maison, minimum, il y avait encore ce dernier refuge, et qui bah, là est carrément menacée par le fait que vous avez un mouchard qui est amené à discuter en plus avec d'autres objets à l'intérieur de votre maison. Et autrement dit, non seulement à vous espionner, mais en plus à vous évincer de la prise de décision sur votre vie. Hein. Je raconte toujours cette histoire, mais Whirlpool, le marchand le fabricant de machines à laver, a passé un accord avec IBM et Amazon. IBM, pourquoi ? Bah parce que grâce au fait qu'ils vendent des machines connectées, ils récupèrent vos données en direct sur votre utilisation de la machine à laver. Toujours pareil, hein, pour venir vous offrir après des offres que vous ne pourrez pas refuser. Et Amazon, pourquoi ? Bah parce que la machine sait que vous n'avez plus de lessive et donc vous avez une livraison automatique qui se déclenche, peut-être par drone d'ailleurs, un de ces jours. Ce qui fait que vos objets vivent très bien sans vous. et que c'est plus la peine de vous lever le matin. Finalement, votre vie est assurée par les machines. Donc, c'est à la fois un monde déshumanisé qui nous explique que les objets sont intelligents et que nous, en tant qu'humains, bon, on serait plutôt l'erreur, hein, qu'il faudrait éliminer. Et au passage, on nous vole notre vie privée, on nous dépossède de notre intimité. Et on nous soumet toujours plus à ce système-là de pilotage centralisé. Donc, bah, ça fait déjà quelques motifs de refuser Linky, à notre avis, hein, de sérieux motifs. Pour nous, c'est ça l'essentiel, hein, si vous voulez. C'est effectivement Linky, comme toute nouvelle industrie, comme toute innovation, amène son lot de ravages écologiques, sanitaires, etc. Mais comme n'importe quelle nouvelle industrie, je dirais, hein, malheureusement, ça va avec, c'est livré avec. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de changer de modèle de société. Et c'est là-dessus qu'on a envie de discuter avec vous, parce que bah, ils ont juste oublié de nous demander notre avis. Donc, nous allons le donner. Voilà. Et c'est ce qu'on vous invite à faire maintenant, bah, tous ensemble. Merci pour votre écoute.